Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle grâce de prier, de chanter ensemble. Vous ne trouvez pas que c'est beau quand même? D'avoir des frères, d'avoir des sœurs. Quel privilège. Quel privilège. Ce que nous avons chanté va vous être expliqué au travers des prédications. Nous allons faire deux lectures. La première dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous encourage à noter certaines paroles qui certainement vont vous aider à faire des progrès, à vivre ce qu'on vient de chanter. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, c'est un commandement, une exhortation. Regardez bien ce qui nous est demandé. Ce verset suffirait bien sûr pour toute l'exhortation, mais on va quand même le compléter. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce qui nous intéresse, ce sont ces trois mots, soyez fermes, inébranlables. Dans le livre de Jacques, il nous est parlé du doute et des épreuves. Jacques chapitre 1er, nous allons lire du verset 1 au verset 12. Jacques 1, verset 1er. Jacques, serviteur du Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Je répète, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect avait disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen. J'ai voulu volontairement terminer par le verset 12 pour expliquer que la tentation n'est pas un péché. Je ne vois pas comment il pourrait être écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation » si la tentation était un péché. Car après avoir été éprouvé, la tentation, c'est clair, ce verset ne peut pas être plus clair, la tentation, je ne parle pas de la convoitise, je parle de la tentation, c'est une épreuve. Heureux l'homme qui supporte les épreuves. Donc, vous avez vu dans le premier texte, soyez fermes, inébranlables. Dans ce deuxième texte, qu'est-ce qu'on voit? On voit les dangers ou le problème du doute. Pourquoi tant de chrétiens vivent-ils dans la crainte, dans la peur? Pourquoi leur foi n'est pas affermie? Vous avez lu, soyez fermes. Donc, la volonté de Dieu, c'est que vous et moi, dans notre marche avec Dieu, dans nos épreuves et dans nos bénédictions, nous devenions fermes. Soyez fermes, inébranlables. Et l'apôtre parle de ces chrétiens qui ont une foi qui n'est pas affermie, qui sont comme le flot de la mer. C'est une image qui explique très 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 bien ce qui peut se passer lorsqu'un chrétien choisit de douter. Vous avez vu, on le relit, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. C'est quelque chose de terrible. Quelqu'un qui est comme ça ne peut pas avoir la paix. Et s'il y a bien quelque chose que Dieu veut, malgré tout ce qui peut nous arriver, c'est que nous soyons dans la paix. Donc ce, ce texte nous parle, c'est bien quand on étudie la Bible. Ce texte, de quoi nous parle ce texte? Ce texte nous parle des épreuves et du doute. Dieu permet des épreuves dans toutes les situations. J'aime le dire parce qu'il y a des chrétiens qui ont décroché parce qu'ils n'ont pas accepté des épreuves dans l'église ou des épreuves dans le couple ou des épreuves dans la vie de tous les jours. Dieu permet des épreuves dans tous les domaines. Il vous faut l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, à un moment donné de votre vie, lorsque Dieu vous permettra telle et telle épreuve, vous allez avoir des problèmes. Donc Dieu nous parle des problèmes, des doutes. Nous en avons besoin. Vous, vous pourrez dire, mais non, je suis sûr qu'il pourrait y avoir d'autres possibilités pour Dieu de nous apprendre. Eh bien, je suis désolé. Il y a hélas besoin d'épreuves. Il y a hélas besoin de difficultés. Vous croyez qu'on pourrait apprendre sans épreuves? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ici? Non, soyons intelligents. Les épreuves doivent amener la victoire. Mais pour que les épreuves amènent la victoire, il faut que les épreuves soient acceptées. Les épreuves, c'est une chose. Le doute, c'est autre chose. Les épreuves viennent, c'est normal. Le doute, lui, vient d'un manque de foi. Et le doute va produire la crainte, les malaises, les troubles. C'est pour ça que le Seigneur parle de gens qui sont ballottés d'un côté et de l'autre. Un chrétien qui doute, qu'est-ce qu'il dit le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? C'est un chrétien irrésolu, inconstant. Voilà comment Dieu parle de certains chrétiens, un chrétien irrésolu, inconstant. Un jour il croit à l'amour de Dieu, le lendemain il n'y croit pas. Un jour, il croit à la grâce, le lendemain, il n'y croit pas. C'est ça un chrétien isolé. Vous voyez que poussé d'un côté, un jour, il croit parce que ça va un peu mieux. Ah, je crois à l'amour de Dieu. Un jour, il croit à la miséricorde. Un jour, il croit à la patience. Le lendemain, il n'y croit pas. Un jour, il est triste. Un jour, il est joyeux. Un jour, il croit à la souveraineté de Dieu parce qu'il a vu une expérience ou parce qu'il a fait une expérience. Et puis le lendemain, il n'y croit plus parce qu'il ne comprend pas pourquoi Dieu a permis telle ou telle épreuve. Il est poussé par le vent d'un côté et d'autre, comme on vient de le lire. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu, mais en même temps, en vérité, ils sont la proie de leurs émotions, de leurs sentiments, de leurs ressentis, de leur influence, etc. Mais quel témoignage! Vous avez tous été certainement choqués par le témoignage pitoyable de certains chrétiens. Oui ou non? Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'avoir des chrétiens? Ils aimaient Dieu autant que vous. Et pourtant, ils ont eu un témoignage déplorable. Parce qu'en fin de compte, leurs doutes venant de leurs émotions, de leurs sentiments, eh bien, ils ont remis en question la fidélité de Dieu. Nos cœurs doivent être fermes, inébranlables. Il faut arriver, c'est une grâce, à ce point de non-retour. Gardez le texte de Jacques, regardez l'apôtre Paul où il en était arrivé. Ça s'appelle un point de non-retour, Romains 8, 35. Il y a des points de non-retour dans les deux. Comment il s'appelle ? Pharaon, il est arrivé à un point de non-retour. Mais ce n'était pas le bon, vous voyez ? Vous vous rappelez quand Dieu endurcit son cœur ? Voilà, ça c'était un point de non-retour. Paul parle de toute l'adversité qu'il a rencontrée. C'est beau ça, l'assurance. C'est quand un cœur est plein d'assurance. Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous y êtes? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? L'angoisse? Est-ce que ça arrive les angoisses? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des angoisses? Mais bien sûr qu'un chrétien porte des angoisses, puisqu'il en parle. Et Paul en a eu des angoisses, même Jésus. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, je l'ai déjà dit, les anges déchus, bien sûr, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, enfin rien ne séparera Paul de l'amour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'assurance. Alors, il faut parler de l'assurance, la base de notre assurance. On est là devant Dieu. On entend une exhortation, soyez fermes, inébranlables. On entend qu'il y a des dangers énormes par rapport aux gens qui doutent. Notre assurance, elle vient de quoi au fait? Elle vient de ce que nous sommes, parce que nous sommes grands et parce que nous avons fait des progrès, ou l'assurance, elle vient de ce que Dieu est vraiment. Vous comprenez? Pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'on est meilleur que les autres? Pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'on est bon. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Vous comprenez? Dieu m'aime, il l'a dit. On a chanté des textes sur les promesses, etc. Dieu nous aime, un point, c'est tout. Est-ce que vous le croyez que Dieu vous aime? Dieu vous aime parce que vous êtes meilleur que votre voisin. Non? Regardez votre voisin et dites, mais je suis meilleur que toi, c'est pour ça que Dieu m'aime davantage. Non? Est-ce que ça serait ridicule? Oh, j'ai fait des progrès. Dieu nous aime. Écoutez bien, ça commence comme ça. Je crois ce que Dieu dit. Dieu a dit qu'il m'aimait, je le crois, je ne le discute pas, il l'a promis, c'est indiscutable. Dans un couple, il peut y avoir beaucoup de situations. Si vous êtes marié, vous le savez. Il y a tout un tas de situations. Imaginez qu'une femme, qu'un mari, soit toujours en train de remettre en question l'amour de son conjoint. Je ne sais pas si tu m'aimes. Tu es ma femme, mais je ne sais pas si tu m'aimes. Un jour, il a confiance en sa femme. Un jour, il n'a pas confiance en sa femme. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est de l'assurance, ça? Est-ce que c'est de l'humilité? Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, oui, mais monsieur, les couples, ce n'est pas toujours l'exemple le plus idéal. C'est vrai. Parce que dans des couples, il y a des erreurs, il y a des défauts, il y a des manquements. Est-ce que tous les couples, dans un couple, tous les conjoints sont dignes de confiance? Vous voyez, c'est pas toujours évident. Mais, mes frères et sœurs, s'agissant du Seigneur, une chose pareille est inconcevable. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Qui pourrait mettre en question le caractère du Seigneur, etc. Mais quand quelqu'un n'a pas une foi irrésolue, oui, je ne comprends pas. Si Dieu m'aime, pourquoi il a permis ceci? Pourquoi il a permis cela? Dieu nous aime et il sait très bien pourquoi il fait les choses. N'oubliez jamais qu'il est écrit quelque chose de vrai. Dieu résiste aux orgueilleux et que Dieu fait grâce aux humbles. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est un état d'esprit. L'humilité accepte incontournablement ce que Dieu donne. Voilà, Dieu l'a dit, je le crois. Seigneur, tu as dit ça, je le crois. L'humilité accepte, par exemple, le pardon. Pourquoi? Parce que Dieu pardonne. Est-ce que Dieu pardonne tout? Oui, Dieu pardonne. Oui, mais avec ce que j'ai fait, je ne pense pas que Dieu va me pardonner. Vous vous rendez compte, j'ai commis un péché. Non, je ne pense pas que Dieu peut me pardonner. C'est de l'humilité, ça? Est-ce que c'est de l'humilité? Vous ne m'aidez pas beaucoup. Est-ce que c'est de l'humilité? Non, ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil conscient, volontaire. Mais qui sommes-nous, nous, pour nous permettre de dire que Dieu ne peut pas nous pardonner parce que ceci, parce que cela? Et si nous étions vraiment humbles, nous accepterions l'amour que Dieu nous donne. Seigneur, tu m'aimes, tu me pardonnes et je considérerai une fois de plus ta grâce. Ce soir, je considère ta miséricorde. Ce qu'on a chanté, c'est magnifique ce qu'on a chanté. C'est exactement la prédication ce qu'on a chanté. Seigneur, tu m'as choisi. Pourquoi on est là ce soir? Parce qu'on est meilleur que les autres Toulousains. Mais c'est sûr. Bien sûr que non. On est là parce que Dieu nous a fait grâce. Parce que Dieu nous a fait miséricorde. Et nos doutes, nos indécisions, nos impressions, j'ai l'impression. Moi, vous savez, toute ma vie, j'ai entendu depuis que je suis pasteur, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. J'ai l'impression que si. Et si vous vivez selon vos impressions, laissez-moi vous dire que vous n'irez pas loin. On ne vit pas selon ses impressions. J'ai l'impression que Dieu ne m'accepte pas. Moi, j'ai vu des gens ici, des gens qui aimaient Dieu, mais ils n'avaient pas confiance en Dieu. Vous savez, c'est une chose de croire en Dieu, c'en est une autre de lui faire confiance. Non seulement celui qui doute, bien sûr, vous l'avez compris, rend un mauvais témoignage, parce que quand on doute, à force, on finit par rendre un mauvais témoignage à son conjoint, à ses enfants, aux autres chrétiens, aux gens avec qui on travaille, mais celui qui doute, en même temps, il ne peut pas grandir spirituellement, c'est sûr. Il ne peut pas être ferme, inébranlable. Et en même temps, il souffre. Et il y en a un qui le sait aussi. Et c'est pour ça que l'ennemi fait tout pour que nous souffrions inutilement. S'il y a des souffrances qui sont nécessaires et utiles, il y en a d'autres qui nous tirent vers le bas. Regardez cet autre verset dans Hébreux au chapitre 3, verset 14. Regardez s'il est beau ce verset. Hébreux 3, verset 14. Le doute, c'est un problème qu'il faut régler. De la même manière qu'on a réglé le problème du vol. Moi, je sais qu'avant ma conversion, je volais. Je volais facilement. C'est pas bien, mais je volais. J'ai renoncé au vol. Une fois pour toutes. Et le doute, c'est pareil. Il faut y renoncer une fois pour toutes. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Mais le diable, il essaie de vous faire croire que non. Hébreux chapitre 3, verset 14. Regardez ce verset. Il est très simple, dans le cadre de cet enseignement, il correspond très bien. Hébreux 3, 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Et ça, c'est un choix. Dieu l'a dit, je le retiens. Dieu l'a dit, je le garde. Le résultat, c'est que ça me donnera de l'assurance. Ça rejoint un peu le même verset qu'on a lu dans le premier verset d'1 Corinthiens 15. Retenir fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Retenir fermement l'assurance. C'est le contraire du doute. Pourquoi certains chrétiens sont fermes, inébranlables, pleins d'assurance, alors que les mêmes chrétiens qui entendent les mêmes prédications sont tout le temps en train de douter? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui entendent exactement les mêmes messages. Prenons ici. Il y a des chrétiens qui entendent le même message, ils sont pleins d'assurance, pleins de zèle, pleins de force. L'autre chrétien entendra le même message, puisque c'est le même pasteur qui a prêché, et ce sera exactement l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui retiennent, qui disent, voilà, ça Dieu l'a dit, je le crois. Et il y a des gens qui disent, oui, Dieu l'a dit, bon, ça doit être vrai. Mais ils ne le croient pas, ils n'ont pas du tout d'assurance. Le doute s'installe, la paix part, et le résultat, eh bien, c'est que nous sommes des chrétiens qui rendons un mauvais témoignage. Il y a une loi qui a été répétée ce soir par Jonathan dans les champs, c'est une loi immuable, c'est une loi éternelle, il nous sera toujours fait selon notre foi. Vous vous rappelez que Jonathan, il a cité ce verset ? Le juste, il vivra par la foi. Le verset est plus précis. Le juste vivra par sa foi. Parce que c'est bien la foi des autres. C'est extraordinaire quand nous parlons avec des gens qui ont la foi. Vous le voyez quand vous discutez avec quelqu'un qu'il a la foi ou non ? Vous discutez avec des chrétiens des fois. Vous sentez que certains, ils sont quand même remplis de foi. Il y a des gens, vous sentez qu'ils sont... ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont peur du lendemain. Ils sont là, comment on va faire, etc. Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu est votre Père, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du lendemain. C'est une loi spirituelle, c'est une loi immuable, vous ne pouvez pas la changer. C'est comme ça, tout le temps, il nous sera fait selon notre foi. Ça sera toujours comme ça. Je souvent dis, parce que ça m'a touché moi, quand Jésus était sur la terre et qu'il guérissait quelqu'un, qu'il sauvait quelqu'un, qu'il libérait quelqu'un, il aurait pu dire, tu sais, je suis le Christ, le Dieu incarné, je suis venu pour mourir sur la croix, je suis le Dieu Tout-Puissant, tu devrais ouvrir les yeux, et c'est ma puissance qui t'a guéri. Non, Jésus disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Il a voulu que nous comprenions bien une chose, c'est que l'action de Dieu est liée à cette foi. C'est une loi, elle est immuable. Le juste vivra par sa foi. Bénissez Dieu si vous avez un mari ou une femme qui a la foi. Bénissez Dieu si vous avez des frères et des sœurs qui ont la foi. Mais même si tous les gens autour de vous n'avaient pas la foi, il vous sera fait selon votre foi. Mais l'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai. C'est que si d'un côté il peut nous être fait selon notre foi, de notre côté il nous sera fait selon nos doutes. D'ailleurs c'est Job qui dit « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Les échecs c'est une chose, les difficultés etc., les épreuves, les problèmes. Mais le doute dans tout ça, ça nous éloigne de Dieu. La foi nous rapproche de Dieu et le doute nous éloigne de Dieu. On l'a lu, vous y êtes dans Jacques, je veux qu'on le relit. Puisque c'est juste après Hébreu, regardez, quand même c'est écrit, on ne peut pas le discuter. Alors c'est le verset 7, ça fait quand même mal au cœur ce verset. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous entendez? C'est terrible cette affaire. C'est comme ça. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas lui donner parce que Dieu ne l'aime pas? Non, c'est une loi. Un homme qui doute ne recevra pas quelque chose de la part du Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est une loi. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas. Est-ce que Dieu aime autant celui qui doute que celui qui a la foi ? Bien sûr, Dieu nous aime de la même manière, mais c'est une loi. Regardez, on revient dans Hébreu, Hébreu 3, 18. C'est important. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction. Regardez, Hébreu 3, versets 18 et 19. Vous y êtes ? Hébreux 3, 18, 19. Regardez bien. Ce sont des lois. Dieu aimait ces gens-là. Mais regardez ce qui est arrivé. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc vous avez deux mots qu'il vous faut mettre ensemble, c'est le mot désobéir et le mot incrédulité. L'incrédulité est le résultat d'un doute qui s'est prolongé. Je fais beaucoup de différence moi, entre le doute et l'incrédulité. Mais ils n'ont pas pu y rentrer. Dieu les aimait, ils n'ont pas pu y rentrer. C'est comme ça. Dieu ne voulait pas les punir. Dieu ne voulait pas les punir. C'est une loi, ils ne pouvaient pas y rentrer. Et leur doute s'est transformé en incrédulité. C'est pour ça que Dieu a dit, enfin Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Et souvent le meilleur moyen, c'est se retrouver seul dans la présence de Dieu, au calvaire, d'essayer de dire, mais ouvre-moi les yeux, montre-moi où j'en suis, je veux absolument vivre par la foi, parce qu'il vous sera fait selon votre foi. Le salut, vous l'obtenez, on l'a obtenu comment? Le salut, on l'a obtenu par la foi. Le salut, est-ce qu'on peut acheter le salut? Est-ce qu'on peut gagner le salut? Non, le salut, il est par la foi. C'est comme ça. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et tout est pareil. Il y a un prix à payer, c'est une foi vivante. C'est une grâce, le salut. C'est un don. Mais même ce don, si grand soit-il, s'accepte par la foi. Il faut l'accepter. Mes frères et sœurs, je le répète, je vous le répète, parce que des fois on est dans les chrétiens. Moi, je me fais mal au cœur de voir tous ces chrétiens qui rétrogradent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé à avoir cette assurance. Je crois ce que Dieu dit. Je le crois. Dieu l'a dit, je le crois. Et nous, on est là toujours, oui, je crois, mais... Je le vois, moi, des gens, je crois, mais il faut que je prie davantage. Il n'est pas dit, il vous sera fait selon la foi et un peu plus de prière. Je crois, mais je ne le sens pas. Il faudrait que je sente la présence de Dieu. Seigneur, je veux sentir ta présence. Il n'est pas dit, il vous sera fait selon la foi et les émotions. Il vous sera fait selon votre foi. Selon la foi et, Seigneur, si je donne un peu plus d'argent à l'église, peut-être que, quand même, Seigneur, tu vas voir, c'est, je le fais de tout mon cœur, Seigneur. Non, il n'est pas dit, il vous sera fait selon la foi et les œuvres. Et on pourrait multiplier la liste. Et il y a des gens, ils ont toujours besoin, il faut qu'ils rajoutent quelque chose. Je prie, mais peut-être que je prie pas assez, c'est possible. Mais ce n'est pas ça. Il vous sera fait selon votre confiance. Mes frères et sœurs, si nous pouvions devenir des enfants simples, j'ai craint ce verset, moi. Il m'a beaucoup réfléchi quand Paul dit « Je crains que vos cœurs ne se détournent de la simplicité de Christ ». Mes frères et sœurs, il y a des lois, elles sont comme ça, il faut les accepter. Dieu a dit quelque chose, je le crois. Mes frères et sœurs, vous voulez que votre foi grandisse? Vous voulez pouvoir chanter « Par la foi nous marcherons ». On l'a chanté, mais c'est autre chose. Ouais. Vous savez, nos amis parfois, vous avez été déçus par des amis? Tiens donc, répondez-moi. Est-ce que vous avez été déçus par des amis? Tous? Des vrais, vrais amis? Bon, est-ce que ça peut arriver d'être déçu par des gens? Oui, ça peut arriver. On peut être déçu par des amis. Bon, ça fait mal au cœur, mais ça se comprend puisque personne n'est parfait. D'accord? Mais enfin, si vos meilleurs amis étaient toujours en train de douter de vous, ça vous ferait beaucoup de peine, non? Et il y a des gens qui sont tout le temps en train de douter de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa puissance, de sa souveraineté, etc. Et ça l'empêche d'agir. Ça l'empêche d'agir. Vous rappelez quand il est dit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Pas du doute. Il y a des gens qui ont douté, ils ont été bénis. Vous rappelez ce monsieur qui avait un fils lunatique, il a été intelligent. Jésus lui a dit, si tu crois, tout est possible. Et lui, il a dit, je crois, viens à mon secours. Vous voyez? Il a dit, Seigneur, oui, je crois, mais viens à mon secours. Et c'est ça, Seigneur, je crois en toi, mais j'ai besoin de faire une nouvelle expérience avec toi. L'incrédulité, ça attriste Dieu. Ça attriste Dieu, mes frères et sœurs. Vous avez envie de rendre un bon témoignage, là où Dieu vous a placé? Est-ce que c'est important pour vous de rendre un bon témoignage? C'est important? Est-ce que pour vous, vous dites, oui, moi j'y tiens, je veux rendre un bon témoignage. Vous rendez compte que de fois on a perdu du temps, parce qu'on a douté. Je le répète, vous doutez d'un ami, mais c'est normal, votre ami, il n'est pas parfait, votre pasteur, il n'est pas parfait, tout ça. C'est tellement facile à comprendre. Mais de Dieu, qui a promis de pourvoir, de s'occuper de tout, quel dommage. être semblable au flot de la mer, agité, et de ne pas croire quand Dieu dit je pourvoirai, je m'appelle Jéhovah, j'irai. Est-ce que vous croyez que Dieu peut pourvoir? Il pourvoira. Ne doutez jamais. À chaque situation, à chaque difficulté, à chaque épreuve qui se présente, dites Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, j'ai encore rechuté. Bien sûr qu'il ne faut pas jouer avec le péché, mais Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je pardonne, dit le Seigneur. Bien sûr, ne vivez pas dans le péché. Je me rappelle ces deux jeunes qui, quand je suis arrivé à Toulouse, je discutais un peu avec eux, puis ils prenaient la Sainte-Seine, et puis je dis, mais vous êtes mariés? Non. Ah, mais il me dit, mais non, mais ne riez pas, ne riez pas. Parce que moi, ça ne m'a pas fait rire. Mais monsieur Gault, le vendredi soir, on ne couche plus ensemble le week-end, comme ça, on demande pardon à Dieu. Et je dis, mais vous plaisantez? Et oui, comme ça, on est pur le Seigneur, pour le dimanche, pour prendre la Sainte-Seine. Je dis, mais vous plaisantez? Bon, ils ne sont plus revenus, bien sûr. Vous voyez, ça, c'est des gens qui se moquent de Dieu. Mais moi, je crois que quand on est sincère et que le Seigneur nous parle, eh bien, on demande pardon. La foi, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, je crois ce que Dieu dit, je le crois. C'est ça. Il l'a dit, je le crois. Il l'a promis, je m'attends à lui. Il le demande, eh bien je le fais. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça ne peut pas être plus simple. Il me demande de faire quelque chose, eh bien je le fais. Il me demande tout simplement de croire, eh bien je le crois. C'est une grâce. Comme je vous disais tout à l'heure, de la même manière qu'on a renoncé à mentir. Vous avez menti avant votre conversion? Bon. Est-ce que vous avez un jour pris certaines décisions et dire c'est fini, j'arrête deux? Vous l'avez fait ça? Non? J'arrête. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, avant ma conversion, j'ai volé. C'est un truc que j'avais. Tout en temps, ça me. Mais, et un jour, le jour de ma conversion, j'ai renoncé à voler parce que je savais que c'était mal. J'ai renoncé à mentir parce que la Bible dit qu'il ne faut pas mentir. Et j'ai renoncé à douter. Pourquoi? Parce que la Bible dit de ne pas douter. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Nous devons nous décider à marcher par la foi. On l'a chanté, je me confierai en toi. On l'a chanté ou non? Je me confierai en toi. Vous avez vu dans la Bible le nombre de fois où des hommes disent stop, je suis dans la détresse, je suis dans la boue, je suis dans la difficulté. Stop, je me confierai en toi. C'est un choix que je fais. La foi, elle amène toujours la victoire. Vous connaissez un verset qui le dit? La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi, donc c'est notre confiance. Nous devons continuellement utiliser le bouclier de la foi. Vous savez ce que Paul dit? Armez-vous de toutes les armes, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est un commandement, ça il faut le faire. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Comment faire pour utiliser le bouclier de la foi? Tiens donc, en fait. Il faut connaître la Bible. Quand l'inquiétude vient, vous avez vu des soldats, comment ils utilisaient leur bouclier? Eh bien, ils utilisaient leur bouclier en fonction de l'attaque qu'ils subissent. Donc, vous subissez une attaque par rapport à l'inquiétude. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Quelle est la réaction par le bouclier de la foi? Quelle est la réaction? Quelle est la tactique du soldat? Ne vous inquiétez de rien. C'est ça. Une attaque vient sur tel sujet, mais non, tu t'en sortiras pas. Si. Parce que la Bible dit que Dieu m'aidera. Il est mon aide. Tu m'aideras, Seigneur. Et Dieu vous aidera. Il vous sera fait selon votre foi. Si vous commencez à dire, oh, je ne sais pas s'il va m'aider, j'ai peur, je ne m'en sortirai pas. Ben, c'est sûr que il vous sera fait selon vos doutes. Mais Seigneur, tu pourvoiras, tu l'as dit, tu le feras. Mes frères et sœurs, c'est important. Mes frères et sœurs, pourquoi il nous est demandé de fixer les yeux sur Jésus? Pourquoi il y avait une sœur dans la prière tout à l'heure qui parlait d'Étienne quand il a été lapidé. Vous rappelez? Quand Étienne était lapidé, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait quand Étienne était lapidé? Il avait les yeux fixés sur Dieu. Il n'avait pas les yeux fixés sur les pierres, il est dit qu'il avait les yeux fixés sur le trône de Dieu. C'est exactement, je ne sais pas si vous êtes accablé, lapidé en ce moment par des situations. Fixez vos yeux sur le Seigneur. C'est un commandement, on le chante, mais il faut le vivre, mes frères et sœurs. Le doute, il ne vient pas de Dieu, croyez-moi. Le doute, il vient du diable. Le diable utilise cela pour vous détourner, pour que vous ne puissiez pas vivre le dernier cantique que l'on a chanté. Oui, nous pouvons pas empêcher la tentation. Nous pouvons pas empêcher les épreuves. Nous pouvons pas empêcher les difficultés. Ça, c'est vrai. Nous devons même les considérer comme un sujet de joie. Mais nous pouvons nous décider de dire « je refuse de les écouter ». Comme les jurons. Vous entendez des gens parler grossièrement des fois? Ça vous arrive d'entendre? Moi, je supporte pas la grossièreté. Et qu'est-ce qu'on fait? On bouche les oreilles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil avec le doute. Je refuse la grossièreté. Je refuse le mensonge. Je refuse le vol. Je refuse telle affaire. Je refuse le travail au noir, etc., etc. Je refuse le doute. Je le refuse. Parce que la Bible nous demande de ne pas douter. C'est ça, une foi forte. Soyez ferme, inébranlable. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Le doute, c'est un problème dans les églises. Il y a déjà, ils ne croient rien. Oui, je crois, monsieur Gault, mais vous comprenez, si vous étiez à ma place. Mais bien sûr, c'est trop facile de dire ça. Je crois que des fois, on est confronté à des épreuves. Moi, je connais une dame, elle a perdu son mari, ça fait 4 ans, je crois. Elle est toujours dans le deuil, le même jour que si elle avait perdu son mari. Le même jour, pareil. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas laissé Dieu consoler. Il y a une femme dans la Bible qui a refusé la consolation. Comment elle s'appelait? Rachel. C'est écrit, Rachel refuse toute consolation. Et il y a des gens, ils passent leur vie à refuser la consolation. Ils refusent la foi. Ils aiment Dieu, mais ils refusent de marcher par la foi. Croyez ce que Dieu dit. Est-ce que vous croyez que Dieu est digne de confiance? Je ne vais pas prêcher jusqu'à demain. Mais dites-moi, est-ce que vous croyez ce que Dieu dit? Est-ce que vous le croyez parce que vous le sentez bien? Parce que ça va ce soir? Ou est-ce que, voilà, je le crois parce qu'il l'a dit. Je le crois dans les épreuves et je le crois dans la bénédiction. Je le crois dans la lumière et je le crois quand je traverse des moments plus ténébreux. Est-ce que ça peut arriver qu'on traverse des vallées noires? Oui, je le crois dans le désert, parce que des fois je suis dans le désert. Mais je le crois dans les verts pâturages. Je le crois dans la santé, je le crois dans la maladie, etc., etc. Jésus est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Croyez-le. Croyez. Quand vous avez de la fièvre, 1 plus 1, ça fait combien? 2. Quand vous n'avez pas la fièvre, 1 plus 1, ça fait toujours 2. Mais non, mais vous allez me dire, oh, monsieur Gault, vous travaillez vos prédications, nous le voyons. Exactement. Mais franchement, c'est la vérité. Bon, c'est vrai que des fois, quand on a beaucoup de fièvre, si on vous pose une question, on peut avoir des réponses bizarres. Mais quand même, ça ne change rien. Et ça, c'est l'image. Dieu a dit des choses. Jésus a dit, je suis la vérité. Quand je dis une chose, elle est la vérité. Vous croyez, mais vous y croyez, vous, à une nouvelle Jérusalem, tout en or, de 2200 km de large, 2200 km de haut? Non mais attendez, comme une fois, quand je disais ça, il y a un enfant dans l'église qui a dit, « Monsieur Gault, où Dieu a trouvé tout cet or ?» C'était un enfant, vous voyez, c'était bien. Mais vous le croyez, ça, qu'il y aura une ville comme ça? Non mais, moi j'ai lu des articles, que même les architectes disent que c'est impossible qu'il puisse y avoir une ville aussi haute. Je pense qu'il y a un architecte dans le ciel qui doit être capable, vu les étoiles qu'il a faites, je pense qu'il est capable de faire quand même une ville un peu plus haute que celle qu'on connaît. Mes frères et sœurs, Dieu l'a dit, un jour si vous êtes fidèles, vous la verrez cette nouvelle Jérusalem. Ce que Dieu a dit, ça se fera. Croyons-le, vivons-le, bénissons-le, rendons un bon témoignage. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'y a rien de plus beau qu'un chrétien qui rend un témoignage, qui dit, moi Seigneur, je te fais confiance. Alors, tout à l'heure, il y a eu un don spirituel, je ne savais pas si je terminais ma prédication, je l'avais préparé bien sûr. Je ne savais pas si je terminais ma prédication sur ce verset. Eh bien, comme il y a eu un don spirituel, eh bien, on va le lire. C'est le verset du chapitre 3 des Proverbes. C'est pour résumer les choix qu'on peut faire, que vous pouvez faire avant de sortir de ce lieu. Dans le Proverbe 3, bon, j'avais que l'embarras du choix. Hein. Mais, comme ça a été prophétisé tout à l'heure, comme ça a été un don spirituel, je le reprends. Proverbe chapitre 3, verset 5. Et je vous assure, je voulais terminer avec ce texte. Donc quand même, quand la prédication corrobore un don spirituel, pour moi c'est quand même une chose que Dieu voulait vous donner ce soir, croyez-moi. Proverbe 3, verset 5. Regardez ce commandement Comment Dieu peut être heureux quand il voit que nous acceptons ces choses? Proverbe 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de temps en temps. Ah, pardon. C'est ça? Ou le dimanche matin? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ça vous rappelle la prophétie? Vous rappelez la prophétie? C'était ça. C'était exactement ça. Confie-toi en l'Éternel et il aplanira tes sentiers dans toutes tes voies. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os, etc. Pour tes os, etc., etc., etc. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en lui. Vous entendez, mes frères et sœurs? Ne doutez pas. Si vous doutez, vous allez vous traîner des casseroles toute votre vie. Et quand vous mourrez, vous allez dire, Seigneur, quelle honte! J'avais un Dieu qui me promettait de pourvoir, un Dieu qui me promettait de me bénir, de me consoler, de me restaurer, de me donner, comme on l'a vu dimanche, chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toute chose, je ne sais pas s'il en faut davantage, je ne sais pas s'il faut des promesses plus grandes. Est-ce que vous voulez qu'on demande à Dieu qui complète un peu plus la Bible, qu'elle est incomplète? Est-ce que vous seriez d'accord qu'on dise à Dieu, mais il manque un livre dans ton livre, il faudrait des promesses un peu plus puissantes? Est-ce qu'on pourrait terminer comme ça? On aurait honte, hein? S'il y a quelqu'un qui dit oui, venez me voir après. C'était de l'humour. Mes frères et sœurs, dans les Saintes Écritures, il y a tout ce qu'on a besoin. Rien n'est impossible à Dieu. Où c'est là? Ou c'est là? Si c'est là, ça ne sert à rien. Si c'est là, je peux vous dire que vous allez vous confier dans le Seigneur. Il est tout puissant, mes frères et sœurs. Et s'il vous dit, confie-toi en lui de tout ton cœur, eh bien, Seigneur, je te fais confiance. Voilà. Et quand le doute vient, je refuse le doute. Je refuse d'entendre des grossièretés. Je refuse de douter. Je refuse de voler. Je refuse de douter. Je te fais confiance. Et Dieu le voit. Et il vous sera fait. Selon cette foi, parce que le mot foi, ça veut dire le mot confiance ou fidélité, c'est pareil. Il vous sera fait selon votre fidélité, il vous sera fait selon votre confiance. Et Dieu agira. Alléluia. J'ai fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit je vais m'attaquer à ce problème? Il est hors de question que je continue à douter, à me pourrir la vie, excusez-moi l'expression, hein, à pourrir la vie des autres. Je veux rendre un bon témoignage et glorifier le nom du Seigneur. Est-ce qu'on sort dans cet état d'esprit? Est-ce que vous croyez que ce que j'ai partagé avec vous, c'est la vérité ou c'est de l'autosuggestion? C'est la vérité, mes frères et sœurs. Et il faut qu'on soit sérieux avec cette affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander de l'aide à Dieu? Mes frères et sœurs, il peut tout, le Seigneur. Il peut tout. Tout lui est possible. Que le nom du Seigneur soit béni. Demandons-lui de l'aide. On ferme les yeux, on prend quelques instants. Mon frère, ma soeur, pense à un problème. Pense à un problème, pense à trois problèmes ou à 3 000, de toute façon c'est pareil. Est-ce que ce soir, tu veux honorer le Seigneur? Le texte de Proverbe 3 dit, honore-le avec tes biens, avec ta dîme, tout ça, mais déjà avec ton obéissance. Avant de commencer à lui donner la dîme, peut-être est-ce que tu ne veux pas commencer à lui dire, Seigneur, tu es digne de confiance. C'est vrai que j'ai des amis qui m'ont trompé, mais enfin, les amis, c'est des hommes. Toi, tu n'es pas un homme, tu es le Dieu Tout-Puissant. Pensez à un de vos enfants. Pensez à votre mari, à votre femme. Peut-être qu'il est inconverti. Vous croyez que vous pouvez dire, Seigneur, moi je ne peux pas m'en occuper, mais toi tu t'en occupes. Sérieusement, il y a quelqu'un qui doute un instant que Dieu n'est pas capable de parler à quelqu'un de votre famille? Alors Seigneur, tu lui parles. On va prier avec simplicité. Il ne nous sera pas fait selon notre grande ferveur. Il nous sera fait selon notre foi. Quelle grâce, Seigneur, ne nous as-tu pas accordée le jour où tu as institué la prière? Le jour où tu as dit aux hommes qu'ils pouvaient s'enfermer tout seuls dans leur chambre et prier, et que toi tu verrais ces hommes. Tu les verrais, tu les entendrais, et tu leur donnerais ce dont ils ont besoin. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons voulu ajouter à la foi des sentiments, des émotions. Seigneur, pardon pour notre misère. Nous voulons vivre par la foi et par la foi seule. Oui, Seigneur, si tu nous rappelles ces choses, ce soit par des dons spirituels, par des cantiques, par l'exhortation, c'est parce que tu veux que nous soyons heureux. Tu l'as même dit qu'ils étaient heureux, ceux qui supportaient les épreuves. Merci pour toutes ces épreuves que tu vas utiliser pour que nous puissions faire des progrès, pour être fermes, inébranlables. Que nous puissions terminer notre course comme l'apôtre Paul qui avait l'assurance que rien, parce qu'il te connaissait, rien ne le séparerait de toi. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, que nous ne venions pas, Seigneur, et que nous ne donnions pas un témoignage déplorable alors que tu es digne, que nous rendions un bon témoignage. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.